You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/kidsandfamily. Just go to Indeed.com/kidsandfamily right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/kidsandfamily. Just go to Indeed.com/kidsandfamily right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Chapitre 8 de Le Pédagogue n'aime pas les enfants de Henri Rorda. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Enregistré par Pauline Latournerie. Chapitre 8. Quelques objections. J'ai parlé longtemps des défauts de l'école et j'ai eu l'air d'ignorer ceux des enfants. Je n'ai pas dit un mot de leur paresse, laquelle justifie, m'affirme-t-on, le régime auquel le pédagogue les soumet. Oui, l'être humain est naturellement paresseux, c'est-à-dire qu'il s'épargne autant que possible les efforts pénibles. Mais, soit dit en passant, cette tendance est-elle déplorable à tous égards ? C'est en cherchant le moyen de remplacer un effort par un effort moindre que l'homme a fait ses inventions les plus admirables. Que l'humanité s'évertue sans scrupule à diminuer la somme de ses souffrances, il lui en restera toujours assez. Et qu'elle ne prenne pas trop au sérieux les ascètes qui font des économies pour leurs vieux jours. Mais il ne s'agit pas de cela. Je reconnais qu'il importe d'habituer l'enfant à faire des efforts. Il faut lui enseigner la persévérance. Or, c'est précisément ce qu'on ne fait pas dans les écoles actuelles. Ah, quelle joie quand il apprend qu'une leçon sera supprimée. Congé ! Car il y a patience et patience. La persévérance est une patience agissante, et il y a une autre patience qui n'est que de la résignation stérile. Les enfants qui sont en bonne santé aiment énormément l'activité, le jeu. Mais admettons qu'ils soient tout de même des paresseux. J'en conclus qu'il faut commencer par apprivoiser les écoliers très jeunes. Il faut, avec beaucoup de précautions, leur prouver que le travail n'est pas une chose aussi pénible que ça. On ne doit pas, dès les premiers jours, leur suggérer cette idée que la joie ne recommence qu'au moment où le travail s'arrête. Il faut d'abord leur donner l'élan. On pourra alors, graduellement, les habituer à des efforts de plus en plus prolongés. Encore une fois, le pédagogue a-t-il lieu d'être si satisfait aujourd'hui des résultats qu'il obtient avec sa discipline ennuyeuse ? La vie n'est pas un roman, me dit-on. Il faut habituer très tôt les enfants aux besognes ennuyeuses qu'ils ne pourront pas éviter plus tard. La plupart d'entre eux auront à accomplir souvent des corvées pour lesquelles il leur faudra beaucoup de résignation. Voilà. Pour ceux que je combats, il n'y a qu'une manière de comprendre le sens du mot « travail ». Ils ont l'air d'ignorer le travail de l'artiste, de l'inventeur, auquel celui de l'enfant ressemble si souvent. Ils ne songent qu'au travail châtiment, au travail qu'on fait à la sueur de son front pour gagner son pain. De ce travail-là, je le reconnais, on s'acquitte, à l'ordinaire, sans aucune joie. Pour recevoir un salaire insuffisant, des millions d'hommes accomplissent chaque jour une besogne monotone et fatigante. Et s'il leur arrive, en travaillant, de compromettre gravement leur santé, cela ne diminue pas la valeur marchande de l'ouvrage qu'ils ont fourni. Mais quand il s'agit du travail des écoliers, c'est en quelque sorte le contraire qu'il faut dire. Les feuilles de papier qu'ils remettent au maître et où ils ont écrit leurs dictées, leurs problèmes ou leurs dates historiques ont une valeur intrinsèque à peu près nulle. On les met au panier, on parvient parfois à les vendre au poids, c'est vrai. Mais elles ont perdu presque tout le prix qu'elles avaient lorsqu'elles étaient blanches. Si le travail de l'écolier a de la valeur, c'est à condition qu'il améliore le travailleur lui-même. L'essentiel est donc que l'école fournisse sans cesse à l'enfant l'occasion de se livrer à une activité fortifiante. Qu'est-ce qui se passe en lui pendant qu'il travaille? Voilà la vraie question. Il ne faut pas le décourager. Abrégeons, il est inepte d'assimiler son activité au travail du salarié. Appliquons-nous, pendant qu'il est jeune, à enrichir ce qu'il y a de profond dans l'individu. C'est dans l'autre école, la seconde, qu'on en fera un serviteur de la société. On m'a dit aussi que les enfants sont moins intelligents que je ne le suppose, qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose de bon quand ils ne sont pas dirigés, et que cela explique la docilité que l'école exige d'eux. D'abord, je n'ai pas dit que les enfants doivent s'instruire sans que personne les aide. Et puis, est-il bien sûr qu'ils aient si peu d'intelligence? Il ne serait sans doute pas impossible d'évaluer, en gros, la somme des richesses intellectuelles que représente une génération d'enfants. Jamais l'expérience n'a été faite sérieusement, loyalement. En attendant, on est déjà obligé de reconnaître que, partout, il y a des écoliers très bien doués, possédant des aptitudes précieuses, essentiellement cultivables. Au sujet de cela, on est tranquille et l'on ne s'en occupe pas. Je veux dire qu'il existe, à notre époque, des écoles pour enfants arriérés ou anormaux, des écoles pour sourds-muets, des écoles pour crétins ou pour cul-de-jatte, mais qu'il n'existe pas d'école pour enfants très intelligents. On dit « Oh, ceux-là se tireront toujours d'affaire ». Cela n'est pas sûr. Ce sont les imbéciles, dont notre société capitaliste fait une grande consommation, qui peuvent être certains de trouver, ici ou là, un petit emploi modeste. Mais il y a des natures fines, plus fragiles que les autres, qui demandent à être éduquées avec un soin tout particulier. Admettons que la docilité humaine soit incurable, qu'il ne soit pas possible de diminuer sensiblement la proportion des esprits médiocres, et que la plupart des pédagogues n'aient rien de mieux à faire que de former des citoyens obéissants. Je demande alors que l'on organise quelques écoles où les maîtres auront pour tâche essentielle de former des esprits libres. Leur rôle sera toujours discret. Ils se contenteront de mettre en branle la pensée de l'élève, auquel on fera subir, de temps en temps, un examen décisif. Un examen qui, bien entendu, n'aura pas pu être préparé. Car encore une fois, il existe des enfants intelligents, enthousiastes et avides, auxquels notre vieux régime scolaire ne convient pas. S'il est vrai que les peuples sont irrémédiablement condamnés à obéir à des minorités dirigeantes, il faut souhaiter que les individus qui mènent le monde soient désormais, autant que possible, des hommes de qualité supérieure. Mais les prédictions des misanthropes sont bien entendu aussi hasardeuses que celles des optimistes. J'ai seulement voulu dire que quel que soit l'avenir de l'humanité, il faut désirer des écoles où l'on favorisera avec scrupule et avec adresse l'épanouissement dans l'âme de l'enfant de ce qu'il apporte peut-être de précieux et de nouveau. Fin du chapitre 8, enregistré par Pauline Latournerie. Chapitre 9 de Le pédagogue n'aime pas les enfants de Henri Rorda. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Enregistré par Pauline Latournerie, chapitre 9. L'école et l'avenir. L'école et le bonheur. Il y a des gens qui se font du bonheur une conception mélodramatique, catastrophique. Pour eux, être heureux, c'est par exemple gagner le gros lot, ou bien c'est devenir, dans un match inoubliable, le champion mondial de la boxe, ou encore c'est porter une toilette infiniment élégante qui laisse derrière elle dans la foule un sillage d'admiration et de stupeur. Et ils sont nombreux, ces naïfs, qui vivent dans l'attente d'un événement exceptionnel après lequel commencera pour eux une extase interminable. On peut imaginer aussi des bonheurs plus discrets et moins chimériques, dont l'homme peut jouir quotidiennement et qui dépendent beaucoup plus de ses qualités que des événements. Car il y a des qualités qui embellissent la vie de ceux qui les possèdent, l'agilité et la force physique, la grâce et la dextérité, la maîtrise de soi, la bonne humeur, la sincérité, l'intelligence, la persévérance. Et ces qualités, dans une mesure qui varie énormément d'une personne à l'autre, peuvent être développées par l'éducation. Or, je le répète, l'école procède un peu comme si elle avait le droit de dire que nul ne s'occupe de l'éducation des enfants, c'est moi seul que cela regarde. Ayant la prétention de les préparer à la vie, elle emprisonne durant des milliers d'heures les êtres jeunes. Elle les met ainsi à l'abri de quelques dangers, mais en même temps, elle les empêche de faire certaines acquisitions précieuses et irremplaçables. En leur imposant constamment la même attitude, elle arrête en eux le développement de forces bienfaisantes. Voilà pourquoi, lorsqu'on songe à tous les hommes qui, physiquement, intellectuellement et moralement, ne sont pas devenus ce qu'ils auraient pu être, et qui, dans ce sens-là, ont plus ou moins manqué leur vie, on a le droit de dire « l'école y est pour quelque chose ». Si le pédagogue se borne à entretenir le zèle docile de ses élèves, il augmente en eux, à supposer que cela dure, une certaine valeur sociale, la valeur qu'ils auront quand ils seront au service des autres. Mais plus tard, ils ne seront pas constamment des employés, ils ne seront pas sans cesse au bureau ou à l'atelier penchés sur l'inévitable besogne. Ils auront chaque jour des moments de liberté, ils auront leur dimanche. Pour ces heures où ils pourront rêver ou réfléchir, il faut leur donner quelque chose de durable à aimer. Nietzsche a dit que les hommes sont destinés à devenir des machines et que pour cette raison il faut les habituer à s'ennuyer. Disons-nous plutôt que nous ne savons pas ce que sera la vie de l'écolier qui est là devant nous. À l'école, 8 ans de suite, tous les enfants pourraient être riches, toute la beauté du monde pourrait être à eux. Que le pédagogue le comprenne enfin. C'est bien peu généreux que de vouloir mettre, inlassablement, sur tous les esprits, ce vernis qui est la marque de la grande maison d'instruction moderne, au lieu de donner à chaque enfant une chaleur et une force qui enrichiraient son être, trésor intime, grâce auquel il ne serait jamais un vrai pauvre. L'école est la question sociale. Il se fait beaucoup de mal dans le monde sans que le diable y soit pour rien. Je ne suis pas de l'avis de ceux qui voient dans l'école obligatoire un moyen de gouvernement imaginé par des politiciens machiavéliques. Cela supposerait chez ses organisateurs un génie bien improbable. En tout cas, l'inertie des uns explique bien mieux que la volonté clairvoyante des autres la médiocrité des institutions que les hommes conservent. Quoi qu'il en soit, l'éducation que reçoivent tous les écoliers est de nature à former des esprits obéissants, des citoyens facilement gouvernables. Le régime auquel ils sont soumis leur enlève peu à peu leur audace et leur curiosité. On s'applique bien plus à leur faire réciter ce qu'ils ont lu qu'à les mettre en garde contre le pouvoir trompeur des mots. Et, au lieu d'entretenir leur optimisme et leur enthousiasme, on continue à leur enseigner de vieilles formules qui expriment peut-être la vérité d'autrefois, mais que ne confirme plus l'expérience des modernes. Car les changements qui se sont faits dans les conditions de la vie sociale n'ont pas modifié la morale qu'enseigne, un peu mécaniquement, le pédagogue. Il suffit de consulter les manuels scolaires actuellement employés pour voir que l'on continue à s'intéresser beaucoup plus aux hommes du passé qui ont commandé et qui ont détruit qu'à ceux qui ont travaillé et qui ont créé. Or, quelle qu'ait été jusqu'à présent l'importance de la guerre, celle du travail humain n'a évidemment pas été moindre. Et comme l'histoire du travail serait plus variée. Car il est bien simple le geste de l'homme qui tue. Ne pourrait-on pas en dire la fréquence sans le décrire chaque fois et sans indiquer chaque fois la date et le lieu? Dans l'insistance avec laquelle tant de maîtres d'histoire défendent contre l'oubli les noms des monarques et des guerriers qui furent glorieux il y a 1000, 2000 ou 3000 ans, se retrouve un peu de la platitude qu'un prince peut toujours attendre de ses historiographes et de ses larbins. C'est trop souvent le passé qu'on propose comme modèle aux êtres nouveaux, et il y a beaucoup de chances pour que ceux-ci, par leur inertie, soient plus tard les défenseurs de l'ordre ancien. Pour les esprits respectueux, le mot « ordre » représente l'intangible. Or, il désigne à l'ordinaire un ensemble de choses lourdes et difficiles à déplacer. Si les hommes inertes pouvaient un jour s'animer, un ordre nouveau commencerait à se faire dans le monde. De grandes questions religieuses, politiques ou sociales divisent les hommes. Mais dans les luttes qui en résultent, notre ignorance inévitable nous interdit de voir des conflits entre la vérité et l'erreur, entre le bien et le mal. L'éducateur, qui a une tâche admirable et toujours la même à accomplir, devrait donc poursuivre son but sans se laisser troubler par le bruit qui se fait dans le monde. Il ne devrait pas prendre parti entre les forces conservatrices et les forces révolutionnaires qui à toute époque agissent dans la société. Il ne devrait être le complice de personne. En mettant son éloquence au service de ceci ou de cela, il abuse trop facilement de la naïveté des écoliers. Mais l'école, qui n'a aucune confiance dans la nature humaine, prend soin de dire tout de suite aux enfants quels sont les sentiments nobles et les idées saines qu'il faut avoir. Aussi, beaucoup de citoyens se croient-ils obligés d'arborer jusqu'à leur mort des idées saines et des sentiments nobles. Ce qui est noble, c'est la sincérité. Il n'importe pas que nos élèves soient, finalement, dans un camp plutôt que dans l'autre. L'essentiel est de lutter proprement, avec courage et avec loyauté, pour la cause qu'on aime. Lorsqu'un maître de gymnastique propose à ses élèves des exercices qui fortifieront et assoupliront leurs muscles, il n'est pas retenu par la pensée qu'il donne à ces jeunes gens une force dont ils feront peut-être un jour un mauvais emploi. En leur enseignant la boxe, il ne se demande pas s'il perfectionne ainsi, longtemps à l'avance, le coup de poing que recevra la mâchoire d'un méchant contrebandier, ou s'il se rend un peu responsable du coup foudroyant qui aplatira le nez d'un vertueux douanier. Il ne se demande pas si c'est dans le coup de poing criminel ou dans le coup de poing légal que les effets lointains de son enseignement se feront sentir. Il lui suffit de savoir qu'en rendant ses élèves plus vigoureux et plus adroits, il augmente d'une manière durable leur valeur personnelle. Eh bien, je voudrais que ceux qui sont chargés de l'éducation intellectuelle des écoliers eussent autant de désintéressement, autant de générosité que ce maître de gymnastique. L'éducateur pourra être sûr de ne pas se tromper s'il s'efforce d'abord, pendant des années, d'accroître la valeur individuelle de l'enfant qu'on lui a confié. Il pourra encore, pour lui inculquer des idées saines, lui montrer ingénieusement et éloquemment ce qu'il y a de fondamental, de beau et de nécessaire dans le travail et dans la solidarité, mais qu'il ne lui parle pas trop tôt de ses devoirs envers l'État. Il y a plusieurs manières d'être un bon citoyen. Et d'ailleurs, l'école n'aura pas trop des milliers d'heures dont elle dispose et de toutes ses ressources pour remplir le rôle discret que je lui propose. Je demande à l'éducateur d'être discret en enseignant la morale. Pourquoi se soucierait-il de la forme que prendra un jour le civisme de ses élèves, puisque leurs vertus sociales ne seront agissantes que dans 15 ou 20 ans, dans un milieu nouveau? Mais j'ai eu tort de dire qu'il ne doit pas prendre parti. S'il prend au sérieux le principe essentiel qui dirige son action quotidienne, s'il est sincère, il ne peut pas être le véritable soutien de la société actuelle, composée principalement de roublards, de naïfs, de militaires et de bêtes de somme. Il se peut que toutes les espérances des optimistes soient illusoires. Il se peut que les individus soient toujours rares parmi les unités qui composent les foules. Peut-être les peuples seront-ils, jusqu'à la fin, ces troupeaux obéissants dont des élites indignes disposent. Dans ce cas, pour nous, les morales et les pédagogies seraient toutes également vaines. Mais l'avenir n'est à personne. Il a existé et il existe des êtres exquis qui peuvent nous faire croire en la possibilité d'une humanité nouvelle, plus éloignée que la nôtre de la brutalité primitive. Bien souvent, pour une heure, des enfants adorablement frais ont fourni à notre espérance des arguments victorieux. Cette humanité, peut-être viable, remue déjà dans le cœur de beaucoup d'hommes d'aujourd'hui et leur fait ébaucher, de loin en loin, un geste nouveau. Eh bien, si un jour une société meilleure que la nôtre peut se fonder, ce n'est pas à l'école d'en retarder l'avènement. L'éducation doit souvent être un frein, mais il faut d'abord qu'elle soit un stimulant. Si l'on enseignait aux écoliers que le respect et l'obéissance, on ferait une œuvre mauvaise. L'imitation du passé ne constitue que la moitié de l'histoire. Les innovations en sont l'autre moitié. Dans nos vieilles vérités et dans nos vieilles habitudes, tout n'est pas digne d'être conservé. Les éducateurs ont leur tâche propre à remplir. Ils pourraient faire quelque chose pour l'embellissement de la race humaine. C'est dire que leur action ne doit pas se confondre avec l'action conservatrice de l'État. L'horrible guerre qui dure depuis 3 ans nous a fait entrevoir ce que peut devenir un peuple lorsque ses pédagogues ne sont que les serviteurs du gouvernement. Seuls les gens très habiles peuvent être constamment, avec un zèle égal, les partisans de l'ordre social que l'État a pour fonction de conserver et de l'ordre moral que l'éducateur essaie de fonder. Le rôle de l'école est d'entretenir l'idéalisme dans l'âme humaine, et dans ce sens, son action ne peut être que révolutionnaire. Quel est donc le courage de dire aux puissants défenseurs de l'ordre actuel « Ne comptez plus sur moi ». Les forces conservatrices qui retardent les changements sociaux, les changements souhaitables comme les autres, sont considérables. Les formes du passé sont défendues par l'hérédité, en vertu de laquelle les enfants ressemblent à leurs parents, par l'imitation qui fait que les êtres nouveaux adoptent les formules et les gestes des anciens, par la paresse humaine, car il faut plus d'efforts pour innover que pour conserver ses habitudes. Le passé est protégé par les lois et les gendarmes. Enfin, il est défendu par ceux qui possèdent l'argent et par leurs domestiques. Eh bien, il ne faut pas que l'éducateur vienne encore donner son coup de main à toutes ces puissances et mette à leur service la docilité et la crédulité des enfants. Puisque l'écolier nous apporte sa naïveté et son enthousiasme facile, donnons-lui l'illusion que la vie est belle. Cette illusion deviendra peut-être agissante. Devenu grand, il essaiera de mettre dans les choses un peu de cette beauté des idées entrevues à l'école. Donnons aux enfants un élan pour la vie. Et si cet élan doit les porter au-delà du point où notre lassitude et notre prudence nous ont fixés, si, un jour, avec l'ardeur et la liberté d'esprit qu'ils nous devront, ils attaquent les dogmes de notre imparfaite sagesse, tant mieux. Fin du chapitre 9, enregistré par Pauline Latournerie. Chapitre 10 de Le pédagogue n'aime pas les enfants de Henri Rorda. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Enregistré par Pauline Latournerie. Chapitre 10. Note. Note 1. Mes yeux sont tombés l'autre jour sur une circulaire que la Société suisse des maîtres de géographie et le comité central de l'Association des sociétés suisses de géographie adressaient il y a 2 ans à messieurs les directeurs des écoles secondaires de la Suisse. J'y ai lu ceci. Depuis longtemps, des hommes compétents se plaignent du peu d'importance que l'on donne à la géographie dans nos écoles secondaires. Non seulement il leur manque, aux élèves, les connaissances géographiques, mais plus encore l'esprit géographique, seule base d'un jugement raisonné sur un pays et ses habitants en Suisse ou à l'étranger. D'où l'infériorité des connaissances civiques qui exigent également de l'esprit géographique. Nous croyons que la géographie, si elle veut remplir sa tâche, peut et doit prétendre au même nombre d'heures que l'histoire. Plus loin, j'ai trouvé ces mots lumineux. Tout phénomène est géographique, s'il est partie constitutive d'un tout, s'il influe sur les autres parties et en est influencé. Moi, après de telles définitions, j'ai envie de m'en aller vers d'humbles hameaux enfouis dans d'ineffables verdures. Le morceau est signé par 3 pédagogues qui sont docteurs et par un 4e qui mérite de l'être. Donc, des hommes compétents, des géographes évidemment, trouvent que nos enfants ne reçoivent pas à l'école un nombre suffisant de leçons. Étudier la géographie chaque semaine, 6 ans de suite, de l'âge de 10 ans à l'âge de 16 ans, après avoir reçu déjà quelques notions à l'école enfantine, cela ne suffit pas. On nous dit qu'il s'agit de donner à l'écolier l'esprit géographique, afin que ses connaissances civiques, mais ces fariboles mises de côté, il reste ce fait. Les maîtres de géographie veulent donner autant de leçons que les maîtres d'histoire. Or, quand un pédagogue, invoquant les intérêts supérieurs de la patrie ou de l'humanité, réclame pour la discipline qu'il enseigne une place plus grande dans les programmes scolaires, quelques-uns de ses collègues, qui ont des raisons aussi bonnes que les siennes, s'écrient « Et moi ? Et moi ? Et nous ? Moi aussi ?» On augmentera donc peut-être encore, si personne ne proteste, le nombre des leçons imposées à nos enfants, afin qu'il ne manque ni d'esprit historique, ni d'esprit artistique, ni d'esprit mathématique, ni d'esprit zoologique, ni d'esprit sociologique, ni d'esprit pédagogique. Ah, une voix pour crier. Être un homme compétent et croire que le civisme des futurs citoyens sera de meilleure qualité si les écoliers reçoivent 34 leçons par semaine au lieu d'en recevoir 33. Note 2. Les efforts que fait le pédagogue pour fixer dans la mémoire de ses élèves des centaines de noms inutiles peuvent paraître d'abord incompréhensibles. Mais l'inertie explique bien des choses. Au commencement du XIIe siècle, des étudiants avides de sciences faisaient des voyages de plusieurs semaines pour profiter des leçons que donnait à Paris le célèbre Abélard. À cette époque, les livres étaient extrêmement rares. L'imprimerie n'existait pas et les écoliers dont je parle devaient prendre toutes sortes de précautions pour ne pas perdre les cahiers où ils avaient noté les paroles du maître. Mais depuis le temps héroïque des croisades, le commerce de la librairie a pris une certaine extension. C'est ce que l'école, qui tient à ses habitudes, n'a pas remarqué. Le pédagogue d'aujourd'hui, comme pouvait le faire son collègue d'il y a 800 ans, continue à dire à ses élèves « Retenez bien tous les renseignements que je vous donne, car en les oubliant, vous feriez une perte irréparable. » N'avoir pas constaté les changements qui se sont faits dans le monde durant ces 8 derniers siècles, c'est tout de même beaucoup de distraction. Autre chose. L'habitude de faire suivre aux écoliers des cours tout à fait distincts, dans chacun desquels toutes les questions traitées sont du même ordre, a des conséquences imprévues. La durée d'un cours est fixée d'avance. Ordinairement, elle est d'une ou de plusieurs années entières. Un cours d'un an se compose donc de 40 ou de 80 ou de 120 leçons, suivant qu'on y consacre une, deux ou trois heures par semaine. Je veux dire qu'il ne se termine pas lorsque le professeur croit être arrivé au bout de sa tâche. C'est lui qui doit continuer à traiter son sujet jusqu'au jour où, réglementairement, le cours s'arrête. Si le programme dit que l'on consacre 2 heures par semaine pendant 1 an à l'étude du Moyen-Âge, le maître n'a pas le droit de faire en 24 ou 36 leçons le tableau de cette période de l'histoire. Il doit employer un temps égal à celui qu'employait son prédécesseur si prolixe, et les payer à l'année et non pas aux pièces, comme disent les ouvriers. Certains pédagogues à qui l'on dirait qu'un cours s'est terminé le 18 janvier trouveraient ça tordant. Il y a par exemple 480 leçons dans le cours d'histoire ou de géographie que tel collégien suive de l'âge de 10 à l'âge de 16 ans. Dans ces 480 leçons, le maître a évidemment le temps de dire un grand nombre de choses intéressantes et d'autres qui le sont beaucoup moins. Et l'on peut s'attendre à ce qu'il y ait dans son cours du remplissage. Tout cela demanderait à être examiné de plus près. Mais le fait est là. À l'école, l'emploi du temps est fixé de telle manière que le maître ne sent pas la nécessité de supprimer dans son enseignement ce qui est sans importance. Fin du chapitre 10, enregistré par Pauline Latournerie. Fin de « Le pédagogue n'aime pas les enfants » de Henri Rorda.
Life is a workout. And Smoothie King is here to help you power through. Whether you're crushing morning miles or sprinting through back-to-back meetings, give your body the energy, protein, and power it needs to help you conquer your goals. Only at Smoothie King.